8h20 à Paris et Gaza, c'était le 5 avril, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, une inflexion inédite dans la position des États-Unis à l'égard d'Israël. Après la mort de 7 travailleurs humanitaires, la Maison-Blanche appelait Israël à une augmentation spectaculaire des entrées d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que... Depuis, l'armée israélienne continue ses frappes et ses raids sur l'enclave avec plus de 33 500 morts dans la population, alors que près d'1,5 million de Gazaouis ont été déplacés par la guerre et qu'on le rappelle, le risque de famine plane sur les près de 2,5 millions d'habitants. Voit-on sur le terrain ces derniers jours une réelle évolution des livraisons? Où en sommes-nous aujourd'hui alors que la trêve espérée pour le Ramadan ne s'est jamais concrétisé? Le grand invité d'RFI ce matin, bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de Médecins du Monde, merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le détail sur le plan humanitaire, médical, des annonces et de la situation, je voudrais qu'on évoque les termes qu'on peut employer aujourd'hui. Il y a les chiffres, mais il y a aussi les mots. La situation à Gaza était par exemple qualifiée il y a une semaine de plus que catastrophique par la Croix-Rouge, de trahison de l'humanité par le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU. Quels sont les mots que vous choisissez, vous, pour décrire ce qui se passe à Gaza aujourd'hui ?
Je dirais qu'il y a, une situation humaine qui est atroce, qu'on est dans un contexte où il y a au moins 33 000 morts, plus de 75 000 blessés, mais il y a aussi des rapports d'acteurs officiels importants qui disent qu'il y a plus de 70% des habitations qui ont été détruites, et c'est des chiffres qui datent du mois de janvier, des Nations Unies et de la Banque mondiale, avec au moins 20 à 30% des structures essentielles qui ont été aussi détruites. C'est des rapports aussi qui montrent que la famine s'installe dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, pour au moins 300 à 400 000 personnes, et qu'il y a une tension nutritionnelle très forte qui est présente dans le sud, où 1,5 million de personnes sont déplacées autour de Rafah. Donc je dirais qu'il y a un blocus maritime, aérien et terrestre aujourd'hui de l'armée israélienne, qui potentiellement induit, enfin potentiellement non, induit une forme d'anéantissement de civils massivement, alors que l'objectif militaire et politique est de détruire le Hamas, ce qui peut se légitimer vu les attaques du 7 octobre, mais manifestement cela passe par un anéantissement d'une bonne partie des civils et c'est totalement contestable au regard du droit humanitaire international.
On parle donc de famine, vous l'évoquiez, pour la population gazaoui. C'est un terme qu'on entend beaucoup sans forcément bien comprendre ce qu'il signifie précisément. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, individuellement pour les personnes concernées? Je dirais presque en termes médicaux, la famine.
Un de nos membres d'équipe, on a 26 personnes aujourd'hui à Gaza, un de notre staff a perdu plus de 20 kilos en l'espace de quelques semaines, quelques mois, parce qu'il n'a pas accès à de la nourriture en quantité suffisante. Ça veut dire pour les personnes concernées plusieurs heures pour essayer de trouver de l'eau potable, pour trouver de la nourriture. Et dans le contexte du centre et du nord de la bande de Gaza, où il n'y a pratiquement pas d'aide et où les bombardements sont importants, vous ne pouvez pas prendre énormément de risques, ou alors c'est une prise de risque monstrueuse pour aller chercher un peu de nourriture, ce qui ne fonctionne pas toujours. Et dans le sud, autour de Rafah, c'est aussi plusieurs heures pour pouvoir trouver à boire et à manger. Ça veut dire concrètement que la plupart des personnes ne font pas un repas par jour. Ça veut dire que dans ce contexte, quand on est aussi un enfant en bas âge, même un adulte, on n'a pas la capacité de pouvoir se défendre contre des maladies classiques, parce que votre système immunitaire, du fait d'un défaut nutritionnel, ne fonctionne pas bien. Et dans ce contexte de blocus, où l'accès aux soins est réduit, où les médicaments ne rentrent pas, le fait cumulé de ne pas avoir une alimentation, je dirais, suffisante et équilibrée, et de ne pas être soigné avec les médicaments adéquats pour n'importe quelle pathologie classique, des compensations diabétiques, asthme ou autre, eh bien vous avez des risques de mortalité beaucoup plus importants. Donc la dynamique de famine, elle est objectivée dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza. Elle sera complète en fin avril, courant mai, sur ce territoire si la situation ne change pas. Et la famine ligne sera complète à l'échelle du territoire, y compris sur Rafah, fin juin, début juillet. Ce sont des projections d'acteurs spécialistes sur ces questions-là. Si l'aide humanitaire ne rentre pas massivement, et aujourd'hui, l'aide humanitaire, elle ne rentre pas massivement. Les humanitaires ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Les équipes ne peuvent pas rentrer. On est dans un contexte où... voilà, on ne peut pas faire notre métier et on est en danger.
Sur les entrées d'aide, justement, il y avait donc ces pressions et ces promesses de l'État hébreu la semaine dernière pour faire entrer davantage d'aide. Le patron de l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens, l'agence de l'ONU, a déclaré hier que l'augmentation attendue n'était pour l'instant pas tangible sur le terrain. C'est aussi les remontées dont vous disposez ?
Oui, sur le sud, autour de Rafah, où on a près de 25 personnes, aujourd'hui, on ne voit pas une aide arriver massivement, même s'il y a un peu d'aide qui rentre. Elle n'est pas proportionnée, elle ne répond pas aux besoins d'un million et demi de personnes. Dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza, c'est plus difficile d'avoir des informations, mais aujourd'hui, on ne voit pas le territoire inondé par de l'aide. Effectivement, il y a des annonces des autorités israéliennes qui, ces derniers temps, se préparent ou auraient fait rentrer plus de camions que d'habitude, notamment par le passage de Kerem Shalom. Mais sur le terrain aujourd'hui, on ne ressent pas de manière très objective cette évolution. Donc ce que l'on sait en revanche, c'est que les bombardements continuent, que c'est toujours des dizaines de morts chaque jour qui poussent la population à se déplacer encore une fois. Il n'y a toujours aucun lieu sûr dans Gaza. Donc aujourd'hui, ce qu'on redemande, c'est un cessez-le-feu pour que les équipes rentrent massivement en sécurité, qu'elles ne se fassent pas tuer. Pour rappel, depuis le 7 octobre, c'est 220 humanitaires qui ont été tués. C'est plus de 160 membres des Nations Unies. Médecins du Monde, on a perdu un médecin. MSF et d'autres aussi. World Central Kitchen, vous le savez, il a perdu 7 de ses membres. Donc on veut un cessez-le-feu pour que nos équipes ne se fassent pas tuer, que l'aide inonde le territoire. Et cette aide, elle est prête à rentrer depuis l'Égypte, mais cela n'est pas encore tangible, alors qu'il y a, vous l'avez rappelé, une famine qui s'installe, un risque de génocide mis en avant par la Cour internationale de justice, et que de notre point de vue aujourd'hui, notamment les leviers au travers de l'arrêt d'envoi d'armes dans la région ne sont pas suffisamment mis en avant.
Oui, je rappelle d'ailleurs que Médecins du Monde est l'un des signataires de l'appel à ne plus livrer d'armes à la fois à Israël et aux groupes armés palestiniens. Médecins du Monde dont le centre a été détruit par l'armée israélienne en février, délibérément, disiez-vous alors. Vous nous parliez des personnes qui travaillent encore pour vous aujourd'hui dans l'enclave. Qu'arrive-t-elle encore à faire concrètement?
Alors, les ONG internationales, elles arrivent un petit peu à bosser dans le sud, d'accord, autour de Rafah. Nous avons 26 personnes, des soignants, des logisticiens qui font de la consultation, de la médecine santé primaire, dans les centres de déplacés. Mais avec des conditions de sécurité qui sont difficiles, on n'arrive pratiquement pas à travailler dans le centre et dans le nord de la bande de Gaza. Donc il y a des ONG internationales dans le sud qui arrivent à faire entrer quelques expatriés. Mais voilà, nous ne sommes pas au niveau des besoins. Ce qu'il faut simplement dire aujourd'hui, c'est qu'on veut que les règles proposées par des instances de gouvernance mondiale soient respectées. Respect des ordonnances de la Cour internationale de justice qui, en janvier, dit qu'il y a un risque de génocide et que pour contrer cela, il faut libérer les otages, les prisonniers et faire entrer l'aide de manière importante. Et il faut respecter le cessez-le-feu du Conseil de sécurité et arrêter l'envoi d'armes dans la région. On n'a pas l'impression que ces éléments-là sont mis en avant pour stopper le massacre.